Alors bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. C'est vraiment un plaisir pour moi, un privilège, mais aussi une certaine appréhension. Un, deux, c'est bon? Ok. Donc le thème qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être la loi. Bon, là, vous m'entendez? Ouais, ça va mieux. Ok. Il y a un peu beaucoup de problèmes techniques, mais vous inquiétez pas. Dieu est là. Dieu est souverain. Donc voilà, on va étudier ce passage, qui va nous traiter de la loi, de l'importance de la loi, la place qu'a la loi dans notre vie en tant que chrétien, et quel est notre statut au jour d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite à prier et à nous incliner auprès de Dieu. Ouais, Père, on veut vraiment te remercier, Seigneur, pour ce dimanche que tu nous donnes, Seigneur, ce repos, ce sabbat que tu nous commandes, Seigneur, et que nous avons la chance, Seigneur, de pouvoir le faire, Seigneur, ici avec liberté et avec joie également de se retrouver les uns avec les autres, Seigneur. Père, je te demande vraiment de toucher notre cœur au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vivante, Seigneur. Ta parole qui nous transperce, Seigneur. Ta parole également qui nous montre celle qu'on est, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, que tu puisses... me guider, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, utilise ma bouche, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur, comme on l'a chanté, pour pouvoir vraiment toucher les cœurs, Seigneur, pour pouvoir vraiment nous poser des questions, Seigneur, pour pouvoir continuer à avancer et à nous remettre en question, Seigneur, afin que chaque jour, Seigneur, nous ayons qu'une seule envie, Seigneur, de ressembler à toi encore plus, Seigneur. Merci encore pour ta parole qui nous est donnée, Seigneur, et je te remets ce message entre tes mains, Seigneur. Gloire tout soit rendu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ok. Alors... Ouais, super, merci. T'as jusqu'au verset 29, hein. Ok. Donc, on va s'intéresser à la loi aujourd'hui, à la foi aussi, l'implication entre les deux. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu au monde dans lequel on est, au jour d'aujourd'hui, et à la situation dans laquelle on se trouve, par rapport à la loi, par rapport à la foi, par rapport aux normes. Et moi, ce que j'ai réussi à en tirer, c'est qu'on se retrouve vraiment dans un monde post-moderne au jour d'aujourd'hui. Au deuxième monde post-moderne, c'est quoi? Il y a tout d'abord une absence de vérité. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle aux gens, quand on expose nos positions, quand on est là, quand on parle de ce en quoi on croit, les gens vont dire « Ok, ouais, mais ça, d'accord, c'est ta vérité, t'es chrétien. Ok, toi, t'es musulman. Ok, toi, t'es athée. » Et on se rend compte vraiment qu'il y a une absence de vérité. Il n'y a pas une seule chose qui guide les gens. Il n'y a pas une seule chose qui permet d'avoir une certitude, en fait. Chaque personne vont se respecter les uns les autres. On est là et on se dit, ok, il n'y a pas vraiment de vérité dans ce monde. Il y a aussi une deuxième chose que j'aimerais relever, c'est ce que j'appelle le relativisme moral. Le relativisme moral, c'est quoi? C'est je me dis, ok, tu as beau penser ça, mais ce que tu dis, ça n'a pas autorité sur moi. Tu as beau penser que, je sais pas, dire la vérité c'est bien, mais moi ce que je pense c'est que ce que tu dis ça n'a pas d'autorité sur moi. Donc la première chose qu'on a vu c'est pas de vraie vérité, deuxième chose pas d'autorité, troisième chose pas vraiment de règles en tant que chrétien ou en tant que non-chrétien. On vit dans un monde où souvent les gens se disent ouais bah du coup moi je vais faire ce que je veux, je vais faire ce qui me semble bien, je vais faire ce que le monde me guide. Et du coup, il y a vraiment une absence de règles qui découle. Une absence d'éthique de vie, une absence de discipline. Quatrième chose, l'athéisme humanistique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que nous, en tant qu'êtres humains, on en est arrivé à un point où les gens ne croient plus en Dieu, donc d'où l'athéisme, mais ils croient en eux-mêmes. D'où un petit peu tout ce qu'on voit, le développement personnel, ouais, tout ce qui est je peux faire les choses, l'évangile entre guillemets de prospérité sous certains aspects, où on se dit il n'y a plus vraiment de Dieu, il n'y a plus vraiment de juge et je peux faire ce que je veux. Donc on est vraiment dans un monde où pas de vérité, pas d'autorité, pas de règles, pas de juge. Et on se rend compte que on est arrivé à ce moment-là, on est arrivé dans cette situation-là parce qu'on est dans un monde sans loi. Parce qu'on est dans un monde où il n'y a pas de Dieu, où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de loi. Et on peut voir qu'on a une décadence morale, on a une décadence au niveau de nos règles, on a une décadence au niveau de notre discipline de vie qui découle véritablement de notre éloignement de la foi et de la loi. Donc ce que je vous invite aujourd'hui, à travers ce texte, Galates 3, 15 à 29, on va s'intéresser à justement, on va parcourir un petit peu l'histoire de la Bible, de Abraham, moins 2000, jusqu'à Jésus-Christ, et même jusqu'à de nos jours, hein, donc quasiment 4000 ans. On va voir plusieurs alliances. L'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, et l'alliance faite avec Jésus-Christ. À travers ça, en fait, on va en déduire premièrement que la loi et l'alliance qui a été passée avec Abraham, tous ces deux choses-là, en fait, l'alliance avec la loi et l'alliance avec Abraham, sont simplement deux choses complémentaires. Il y a une continuité entre ces deux choses-là. Deuxièmement, on va s'intéresser au véritable but de la loi, parce qu'on va voir que donc l'alliance d'Abraham et l'alliance avec la loi sont complémentaires. On va se poser la question, mais pourquoi, quel est vraiment le but de la loi? Et troisièmement, donc on a vu en termes chronologiques l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, et troisièmement l'alliance avec Jésus-Christ. Quel est notre statut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles valent en fait ces alliances pour nous? Donc voilà, on va vraiment faire un parcours chronologique, un parcours en termes d'étapes sur l'histoire de la rédemption de Dieu au travers de ce texte. Donc voilà, on va s'intéresser au tout début du verset 15 au verset 18. Voilà, donc vous pouvez le voir. Donc là, c'est vraiment cette partie-là où on va voir en fait que l'alliance faite avec Moïse, l'alliance de la loi, est une continuité de la promesse faite à Abraham. Donc voilà, rapidement, pour comprendre le contexte de ce qui est dit, on va s'intéresser aux 14 versets précédents, rapidement. Ce qui s'était passé, donc Paul parle aux Galates dans sa lettre, et au début, le but de cette lettre, c'est vraiment de combattre les fausses doctrines qui ont été prêchées aux chrétiens de Galates. Paul est là, et il va faire un long prêche, entre guillemets, et un long débat théologique sur la nécessité de la justification par la foi. Ensuite, comme on va voir donc au chapitre 3, versets 1 à 5, il est là et il nous rappelle les principes éternels du salut. Le salut est obtenu par la foi, la justification par la foi seule. Verset 3, il dit « Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Ce qu'on avait vu avec Ruben, c'est les Galates se disaient, oui, bah du coup, d'accord Seigneur, tu as touché mon cœur, d'accord Seigneur, j'ai eu la foi en toi, mais du coup, maintenant que j'ai la foi, il y a peut-être un autre stade qui va arriver, peut-être quelque chose d'autre qui va s'enclencher, et je vais faire les choses par la loi. Donc ils disent, ok, tu m'as touché par la foi, je suis d'accord, mais la sanctification, et moi la croissance en tant que chrétien, elle doit se faire par la loi, elle doit se faire par les œuvres. Verset 3, Paul rappelle bien, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il leur dit, les Galates là, ce qui se passe, c'est que vous avez reçu la foi en Jésus-Christ, c'est Christ qui a changé votre cœur et changé votre vie, et c'est Christ qui va continuer cette œuvre en vous là. Deuxième chose, donc il continue, verset 6 à 9, il utilise Abraham. Il illustre son passage avec Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez l'alliance au départ qui a été passée avec l'homme, avec l'humanité. Abraham, Genèse chapitre 15, verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ce qu'il dit, c'est que, ok, Abraham, ce qu'il a eu avec Christ, c'était tout simplement, enfin, ce qu'il a eu avec Dieu, en fait, c'était tout simplement une foi parfaite, une foi simple en les promesses de Dieu pour Abraham. Dieu avait promis de grandes choses pour Abraham, et Abraham n'a pas fait un million d'œuvres, n'a pas fait un million de lois, mais il a juste obéi et cru en Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Troisièmement, ensuite, Paul nous rappelle que, ok, on est justifié par la foi et non par la loi. Deuxièmement, regardez Abraham, comment il a fait, le père de toutes les nations, le père de l'alliance juive, regardez comment il a fait, regardez la foi qu'il a eue. Troisièmement, si vous vous dites que c'est pas par la foi qu'on l'a, mais si c'est par la loi qu'on peut obtenir des choses et des bénédictions en tant que chrétien, Regardez ce qui vous attend. Deutéronome chapitre 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Je pense qu'il n'y a pas de chose plus claire. C'est, il y a vraiment cette malédiction de la loi, en fait. D'accord, vous vous dites, vous, en tant que chrétien, ouais, je vais obéir à toutes les choses, à toutes les recommandations, toutes les ordonnances de la loi. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous désobéissez à une seule de ces lois, vous serez maudit, vous serez puni, et vous aurez cette séparation éternelle avec Dieu. Donc voilà, rapidement, il a remis en place la doctrine du salut. Il a appelé Abraham, entre guillemets, il a rappelé l'alliance avec Abraham qui est faite par la foi et la grâce. Et il nous rappelle aussi que, ok, si vous ne voulez pas croire ça, si vous voulez continuer à dire « Dieu m'a touché, mais je veux continuer à faire des œuvres pour mon salut », attendez-vous à la sentence, attendez-vous à ce qui va arriver, la malédiction de la loi. Donc, ce qui se passe, c'est que, concrètement, les Galates, à ce moment-là, ils avaient vraiment un problème, entre guillemets, avec la loi, un problème avec les œuvres. C'est que pour eux, ils se posaient cette question-là. En fait, on va essayer de se mettre à la place des Galates à l'époque. Ils se disent, ok, Paul, tu nous prêches le message sur la justification par la grâce. Tu nous prêches le salut. Mais je vais te poser une question. Pourquoi il y a eu cette alliance-là avec Abraham? Et pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait la loi? Vous voyez, on se pose la question. Ok, Dieu, dans ton plan parfait, tu as choisi Abraham, tu as élu Abraham pour qu'il soit le père de toutes les nations, pour que les nations soient bénies, pour que de sa descendance, Christ puisse arriver. Alors, pourquoi tu as mis en place la loi? Pourquoi tu as passé cette alliance avec Moïse? Quel était le but de cette alliance avec Moïse? Et donc, le rationnel des Galates, c'est parce qu'il y a eu, parce que Dieu a voulu passer avec Moïse cette alliance, dans ce cas-là, l'alliance de Moïse prévaut, en fait. Et l'alliance de Moïse annule l'alliance qui a été faite avec Abraham. Je sais, c'est assez, je vois vos têtes, c'est technique, c'est le texte. Mais franchement, accrochez-vous, avec ce qui va se passer. C'est donc, il dit, il y a eu l'alliance avec Abraham par la foi. La loi est arrivée. Et moi, Galate, je me pose là aujourd'hui, je me dis, mais si Dieu a voulu ça, c'est que y a bien une raison. Et eux, ils ont fait le rationnel. Donc, ils se sont dit, la loi va remplacer la foi. Dans l'histoire de la rédemption des hommes, Dieu a voulu que la loi intervienne avec Moïse et que la loi soit remplacée par la foi. Donc, à partir du verset 15, Paul ici va utiliser une analogie, en fait. Paul ici va utiliser un argument, il va dire, ok, verset 15, frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va dire là? Il faut savoir qu'à l'époque, en ce qui concerne les testaments, en ce qui concerne les alliances, il y a quelque chose de très important, c'est que bon, au jour d'aujourd'hui, on peut tout ce qui est testament, alliance, on peut changer. Enfin, pas alliance, mais testament. Quand je crée mon testament, moi, le testataire, je peux changer au fur et à mesure ce que j'ai écrit au départ. Même si je veux donner mon héritage à Oscar, et j'ai dit après, bah non, finalement, je veux pas parce qu'il est pas sympa, je vais donner à Sam. Allez, je peux changer, c'est possible. Mais à l'époque, selon les lois juives et les lois grecques, quand un testament était écrit, il n'y avait plus aucune possibilité de le changer. Plus aucune. La loi grecque et les lois juives, dans les deux cultures, elles verrouillaient en fait le testament. Ce qu'il est là, en fait, Paul utilise ça, il dit, mais regardez, vous les hommes, quand vous écrivez des testaments selon votre culture juive ou votre culture grecque, personne ne peut changer ce testament-là. Alors comment pouvez-vous dire que le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, le Dieu qui nous a formés, qui nous a créés, qui a créé cette terre, qui a passé cette alliance, comment pouvez-vous dire qu'il va changer l'alliance? Que l'alliance qu'il a passée au départ avec Abraham, par la foi, elle va être changée. C'est vraiment un blasphème que vous êtes en train de faire là. C'est pas possible que vous puissiez dire ça. Donc il est là, il va dire, le testament que Dieu a passé et l'alliance que Dieu a passée avec nous, elle ne peut peut-être pas être changée. La substance même de la foi, la substance même de cette confiance, comme on l'a lu 15-6, hein, Abraham eut confiance en l'Éternel et Dieu lui imputa justice. Lui imputa justice, c'est vraiment la phrase clé en fait au moment où Abraham a confiance en l'Éternel et où Dieu le déclare juste, Dieu le déclare sauvé, Dieu le déclare ta foi, entre guillemets, ta foi t'a sauvé. Et c'est bien ça qui est la substance même de cette alliance. Bien au-delà de la nation qui était promise, bien au-delà des bénédictions qui étaient promises, bien au-delà de la terre de Canaan qui était promise, la substance même de l'alliance, elle était là. Elle était présente déjà par la foi. Paul dit, ok, si vous dites ça, si vous dites que la loi a remplacé la foi, vous êtes en train de blasphémer, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas tout-puissant et que même des choses que l'homme ne peut pas changer, Dieu aussi est tout soumis aux mêmes règles et Dieu pourrait être changé. Donc voilà, en l'espace de deux versets, en fait, il balaye totalement l'argumentaire des Galates. Ensuite, on va s'intéresser aux alliances, en fait, à l'alliance de Moïse, à l'alliance mosaïque et à l'alliance avec Abraham. Concrètement, moi, ce qui m'a marqué, c'est que l'alliance entre Abraham et l'alliance avec Moïse, si on regarde bien, quand Dieu a passé son alliance avec Abraham, c'était vraiment Dieu a dit « Ok, je te promets une descendance, je te promets un héritage, je te promets une nation, je te promets des bénédictions. » On peut voir ça dans Genèse, à partir du chapitre 12, verset 3, verset 7, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, je donnerai ce pays à ta postérité. » Genèse chapitre 15, verset 5 et 18, « Je te donnerai ce pays pour que toi et ta postérité puissent y rester, puissent y grandir. » Et on voit vraiment que toutes ces choses-là, Dieu a promis. Dieu a promis beaucoup de choses à Abraham. Et quand on regarde la loi de Moïse, on se rend compte que, en fait, la loi de Moïse, c'est tu ne dois pas. Enfin, on regarde un petit peu les commandements, les 10 commandements. Tu ne tueras pas. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas d'autres femmes, etc. Et on se rend compte que, mais Dieu, il a changé ou quoi? Enfin, on se dit d'un côté, quand il a passé son alliance avec Abraham, Dieu, il était là. Il fait, aie confiance en moi. Je vais te donner. Toi qui as 100 ans, tu auras un fils. Tu seras le père d'une grande nation, etc. Et d'un autre côté, quand on voit la loi, on se dit mais Seigneur, pourquoi t'es aussi tu dis ouais bah du coup il faut pas. Il y a vraiment un peu cet antagonisme en fait entre l'alliance de Moïse, l'alliance de la foi. Mais de la même manière qu'il y a eu des conditions pour l'alliance, il y a aussi la bénédiction dans cette alliance. On va voir dans tout simplement, au départ, Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu demande à Abraham de partir du pays où il est, de partir de Charan avec Lot et sa femme et ses serviteurs pour aller à Canaan. Dieu demande d'avoir la foi en ça, qui va pourvoir. Ensuite, par rapport à l'alliance de Moïse, Exode chapitre 20, verset 24, il dit « Construisez un autel pour me servir, pour me louer, pour m'adorer. » Deutéronome chapitre 7, verset 12 à 13, Dieu nous appelle à obéir également, à obéir à la loi que tu lui as donnée. Donc au final, on se rend compte que ce qui était demandé dans l'alliance avec Abraham et ce qui était demandé dans l'alliance avec Moïse, en fait, ça revient à la même chose. Que ce soit avec ce que Dieu va me donner et que ce soit avec ce que Dieu veut faire de moi, comment je dois lui obéir, en fait, ça... La foi en Dieu et la foi en la promesse de Dieu est vraiment la substance même, est vraiment le cœur même de ce qui va en découler. Et c'est à travers cette foi-là que Abraham va obéir à Dieu, que Abraham va avoir un enfant Isaac, que Abraham va vouloir sacrifier son enfant Isaac. Et c'est à travers cette même foi-là en fait que Dieu veut que les Israélites et tout le peuple d'Israël en fait obéissent à la loi. Donc on voit bien que les conditions de l'alliance sont différentes, Abraham doit aller, doit sortir du pays, Abraham doit sacrifier son fils. Dans la loi, on doit obéir à la loi, mais la manière avec laquelle on peut obéir à cette alliance est la même. C'est l'obéissance qui découle de la foi. La foi qu'a eu Abraham et la foi qu'a eu Moïse et les Israélites est la même, qui nous apporte l'obéissance. On peut voir l'obéissance de Moïse dans Genèse chapitre 12, versets 16 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » On peut voir aussi dans Genèse 26, 4 à 5, un autre passage, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc on a vu que l'alliance avec Moïse ne pouvait pas effacer l'alliance faite avec Abraham. La foi qui était présente au moment de l'alliance avec Abraham est vraiment le cœur même et la substance même de toutes les alliances qui sont passées. Les ordonnances que Dieu a données ensuite à travers Moïse sont vraiment une continuité pour le peuple d'Israël, permettent de révéler en fait la personne de Dieu et permettent de faire de ce peuple un peuple à part, un peuple béni. Et dernièrement, on va voir, quand on parle au verset, à partir du verset 16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa descendance, il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. » Ce qu'il faut comprendre à travers ce passage, et la suite, ou la suite après verset 19, il nous rappelle l'héritage à travers Jésus-Christ, et que la descendance d'Abraham est la descendance de Jésus-Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'Abraham, il y a deux descendances qui sont possibles. Il y a la descendance et la postérité physique, c'est-à-dire tous les fils d'Abraham, tous les petits-fils, etc. Donc ça, c'est ce que la promesse que Dieu avait donnée quand il allait dire que je ferai de toi et tu seras le père d'une multitude, tu seras le père des nations. Et il y avait aussi également une descendance spirituelle d'Abraham. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, en fait, étaient... et quand on parle de descendance, en fait, dans ce verset 16 et 17, c'est la descendance en Christ qui est spirituelle. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont cette foi-là, la même foi qu'Abraham, la foi que ce Dieu Tout-Puissant allait accomplir les promesses qu'il avait données, toutes les personnes qui ont une confiance en ce Dieu-là, elles appartiennent à la descendance spirituelle d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il dit, non pas à tes descendances, mais à ta descendance. Les descendances d'Abraham, ce sont tous les fils, toutes les filles, à travers Isaac, à travers les 12 tribus de Juda, à travers le peuple d'Israël qui ont été formés. Et la descendance qui est en Christ, c'est sa descendance spirituelle qui permet d'être sauvé, en fait. C'est la même foi qu'a eu Abraham au moment, dans Genèse 15, 6, au moment où Dieu lui a promis la nation, la postérité et les bénédictions. Et c'est cette foi-là, en fait, et cette descendance-là qui est une descendance par la foi qui va permettre d'obtenir l'héritage. Comme on voit verset 19, en effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Dieu a vraiment accordé la grâce. Dieu a justifié Abraham par la foi. C'est pas par quoi qu'il ait pu faire. C'est pas par une autre alliance. C'est vraiment la foi qu'a eu Abraham, cette foi personnelle et profonde, que Dieu allait réaliser ces choses-là, même si ça me paraissait impossible, que Abraham a pu être sauvé. Donc voilà. Dans cette première partie, on a vu que l'alliance de la loi ne pouvait pas, en aucun cas, annuler la promesse, l'alliance de la promesse qui a été faite avec Abraham, que la loi était une continuité de cette promesse. Et maintenant, on a vu que à travers la descendance d'Abraham, en fait, il y avait deux descendances possibles, donc une physique et une spirituelle, spirituelle marquée par la foi. Maintenant, on va se poser la question, je pense que... Donc, avant de se poser une question, on avance en fait dans le temps. On avance dans le temps, donc il y a eu Abraham, bim, l'alliance avec Abraham. On avance dans le temps, il y a eu la loi, bim, les 10 commandements, les 600 lois et ordonnances. Et donc à ce moment-là, quand on est de ce moment de l'histoire, on pourrait se poser comme question, pourquoi la loi ? Au final, Dieu a donné la loi, on a vu que la promesse et la grâce étaient là, Dieu a donné la loi, on a vu que la loi ne supprimait pas l'alliance de la promesse, mais on va se poser la question maintenant, mais du coup, quel est le but véritable de la loi ? Si la loi n'est pas là pour me sauver, si la loi n'est pas là pour entre guillemets, me changer en tant que peuple de Dieu, quel est le véritable but de la loi ? Donc, on peut le voir, hein, verset 19, Paul dit, pourquoi donc la loi ? Donc c'est la question qu'on se pose, pourquoi donc la loi ? Il nous dit, elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Donc ce qu'il nous dit ici, Paul, c'est que la loi, elle a été donnée, et ça c'est ce que je... C'est entre guillemets comment je le reformule en fait ce verset, c'est la loi a vraiment été donnée pour susciter en nous un besoin, le besoin et l'attente d'un sauveur. Pour susciter en nous le besoin et l'attente d'un sauveur. En nous montrant tel que nous sommes, pour que nous aspirions à la perfection de Jésus-Christ. Donc ce qu'il dit, c'est que, verset 19, la loi a été ajoutée ensuite à cause de transgression jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Donc, la descendance à qui la promesse avait été faite, c'était Jésus-Christ. Et donc la loi, elle a été là pour montrer nos transgressions, pour qu'on attende Jésus-Christ. On va voir plusieurs points, par exemple. Premier point, donc l'un des principaux buts de la loi, c'est révéler le péché comme le péché. Paul est très fort dans Romains, il le dit très bien, Romains 2,15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. La loi est écrite dans nos cœurs. Ce qu'il est en train de dire là, c'est au départ, moi, je me suis dit, elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions. On pourrait se dire, mais du coup, est-ce que Dieu a ajouté la loi parce qu'il y a eu les transgressions, ou est-ce que Dieu a décidé qu'il y avait transgression parce qu'il y avait la loi? Je ne sais pas si vous ce que je veux dire. Est-ce que c'est la loi est intervenue après pour dire que ça c'est des transgressions, ou est-ce qu'il y avait déjà des transgressions et après Dieu a dit à travers la loi c'est ça? Donc là déjà Romain, l'apôtre Paul nous dit dans le cœur de l'homme, la loi est écrite dans le cœur de l'homme. La conscience en rend témoignage. Les pensées nous accusent ou nous défendent tour à tour. La loi est écrite dans notre cœur. Romains 2,15. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente tous, chrétiens ou non chrétiens. On sait qu'il y a des choses qui sont mal. On sait qu'il y a des choses qui sont pas bien. Tuer quelqu'un, ça c'est sûr que c'est mal. Enfin, je pense que tout le monde, ici, qu'on soit chrétien ou non chrétien, on a cette loi dans notre cœur. Et je pense que les lois qui sont révélatrices de toutes les grandes civilisations dans le monde sont là pour démontrer cela. La conscience de la loi, la conscience de la justice est dans notre cœur. Deuxièmement, en Romains 4,15, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Est-ce que ça voudrait dire que quand il n'y a pas de loi, quand il n'y avait pas de loi en fait, les gens ne péchaient pas ? Est-ce que ça veut dire ça ? Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Romains 5,20, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché existait déjà avant la loi. C'est pas la loi qui a révélé le péché tel qu'il est. C'est pas Dieu, il a attendu 430 ans pour dire au moment de Moïse, il a fait « Ah bah regarde, il y a des gens qui sont méchants, je vais mettre la loi comme ça, à partir de ce moment-là, ils vont être déclarés pécheurs. » Non. La loi, le péché, le mal, il existait déjà avant. La loi avait un but précis de révéler le péché comme tel quel, comme tel. Il voulait montrer aux hommes, il voulait en fait faire du péché invisible, du péché du cœur de l'homme, du péché invisible, une transgression visible. C'est-à-dire que ce que vous faites dans votre cœur, le péché que vous faites dans votre cœur, dans votre tête, quand vous désobéissez à moi, je vais mettre ma loi pour que vous voyez à quel point c'est en désaccord avec moi, à quel point vous êtes en rébellion avec moi, à quel point, par rapport à mon standard, c'est quelque chose de totalement faux. On peut voir un petit peu l'analogie comme si nous, je suis malade, je sais que je suis malade, je sais pas exactement ce que j'ai, mais je sais que je suis malade. Et je vais voir le docteur, docteur Eliane ou je sais pas, ou un autre. Je vais voir le docteur et ce docteur-là, il va me dire « Ok, on va faire un check-up, on va faire des analyses et tu vas voir les résultats de ces analyses. T'as ça, je sais pas, t'as le diabète, t'as trop mangé de sucre, t'as trop bu de coca, t'as une entorse au poignet parce que t'as déplacé une chaise. Voilà, t'as, je sais pas, tu manques de vitamines, j'en sais rien. T'es... Voilà. Et en fait, le médecin va dresser un check-up complet de moi. Il va me dire exactement qu'est-ce qui est faux, enfin qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est mauvais. Parce que j'ai été entre guillemets à travers le standard entre guillemets du médecin, entre standard de la bonne santé. En fait, la loi c'est comme ça en fait. Ça révèle au jour, au grand jour en fait, nos péchés. Ça révèle au grand jour qui nous sommes vraiment. Quel est notre état? Quel est notre péché? Quelle est notre rébellion avec Dieu? Pour qu'ensuite on n'ait plus aucune excuse. Pour qu'ensuite le péché qui a été révélé tel quel ne puisse plus on puisse plus ignorer en fait. Dieu a mis cette loi là pour dire au moment où tu mens, au moment où tu as des mauvaises pensées, je te le dis, c'est quelque chose qui est mauvais. Je te le dis, c'est quelque chose qui est en contraire avec ma volonté. Et maintenant tu le sais. Déjà dans ton cœur tu te sentais coupable. Maintenant je te le dis pour que ce soit visible. Et maintenant libre à toi de faire ce que tu veux. Libre à toi de décider si tu vas être ou non en conflit avec moi. Donc voilà, comme on peut le voir, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et donc là, on a vu, ça révèle, la loi révèle le péché comme le péché. Ensuite, la loi est également, et dans le même ordre d'idée, la loi est également un miroir en fait, à travers ça. La loi est un miroir pour notre âme. On peut voir dans Jacques 1, versets 23 à 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Comme un homme qui se regarde dans un miroir, qui se découvre et qui, après s'être regardé, s'en va aussitôt et oublie comment il est. La loi est là pour nous dire, ok, je vais te montrer tel comment tu es, tel que selon les standards de Dieu. Regarde-toi véritablement, pas selon les pensées de ce monde, pas selon toutes ces choses qui te transforment et qui faussent ta pensée, mais regarde-toi-même en fonction de mes standards. Et si tu ne veux pas obéir à ce moment-là, et si tu ne veux pas changer, tu es comme cet homme-là qui s'en va et oublie aussitôt. Et tu te destines en fait à une condamnation éternelle. Tu te destines à avoir sciemment rejeter le jugement de Dieu et à continuer en fait selon tes pratiques et selon ta volonté. Donc voilà, la loi permet vraiment de faire du péché invisible de notre cœur une transgression visible de Dieu, une transgression visible de la parole de Dieu. On peut voir aussi que la loi permet de préparer nos cœurs. On peut voir dans Deutéronome chapitre 30 au verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Jérémie 31, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » La loi permet vraiment de nous préparer, en fait. La loi permet vraiment à notre cœur de nous rendre compte de notre péché et de préparer la venue de Jésus, comme on l'a vu dans Romains tout à l'heure, Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi permet vraiment au péché de se révéler tel quel et de montrer à quel point on est pécheur, à quel point on a besoin de Dieu. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, la grâce va surabonder. La loi n'est pas la grâce, hein. La loi ne peut rien faire. Mais la loi est là pour nous montrer tel que nous sommes, pour que la grâce surabonde, pour que l'alliance de la grâce puisse arriver. Ensuite, on peut également voir la loi et les ordonnances de Dieu comme un moyen pour nous de nous révéler la perfection de Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait le livre de Besmour sur les groupes de maisons. Donc on avait suivi une étude dont le thème c'était notre cœur, une habitation pour Dieu. Et on avait vu à quel point la construction du tabernacle, à quel point les lois qui étaient là pour montrer comment on devait adorer Dieu, les lois qui étaient là pour montrer à quel point on devait être pur devant Dieu, toutes ces lois en fait étaient un reflet de Dieu. Toutes ces lois étaient un reflet de la magnificence de Dieu. Le lieu très saint, le lieu où seul le grand souverain sacrificateur pouvait aller, le fait de se purifier avant de pouvoir rentrer dans le lieu saint, toutes ces choses-là en fait étaient déjà des prémices, des types et un avant-goût en fait de la présence de Dieu. Et dans Exode 25-40, il dit « Prends garde à faire toutes ces choses selon le modèle qui t'a été donné sur la montagne. Prends garde à faire toutes ces choses selon le modèle qui t'a été donné sur la montagne. » Donc toutes ces choses-là, toutes ces ordonnances-là étaient là déjà pour révéler la gloire, la perfection, la sainteté, la pureté de Dieu. Et également, dernier point, la loi, en fait, si on réfléchit à la loi telle qu'elle a été donnée, il y a trois grandes parties. Il y a une loi morale. Donc la loi morale de Dieu, c'est les 10 commandements. C'est quelle est la personne de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. C'est les standards moraux de Dieu. Il y a également la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est quoi? C'est toutes ces lois qui étaient là pour dire « Ah bah tu tueras un premier mâle de taureau pour faire sacrifice, tu donneras la meilleure partie pour Dieu. » Toutes ces choses-là qui régissaient en fait le culte et l'adoration de Dieu, c'était des lois cérémonielles. Et il y avait aussi les lois juridiques. Comment est-ce que nous, on doit procéder en tant qu'Israélite pour régler un différend avec un frère? Si je suis en désaccord avec un frère, comment est-ce que je vais faire pour le régler? Donc toutes ces lois-là, les lois morales, les lois cérémonielles et les lois juridiques, étaient là pour en fait montrer que le peuple de Dieu devait être un peuple à part, pour montrer que le peuple de Dieu devait être différent. Donc voilà, les quatre principaux points. Pourquoi la loi? Révéler le péché comme le péché, préparer nos cœurs à la repentance en voyant notre péché par Jésus-Christ, révéler la perfection de Dieu et nous approcher de lui à travers les différentes lois cérémonielles, les lois juridiques et les lois morales, pour que nous puissions comprendre la perfection du caractère de Dieu. Verset 21 ensuite, il dit « La loi est-elle contre les promesses ?» De Dieu, certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré que le monde entier prisonnier du péché, afin que ceux qui avaient été promis soient accordés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la loi, elle nous enferme. Enfin, elle nous enferme. Elle a cette puissance de révéler notre péché. Elle a cette puissance également de nous montrer tels que nous sommes. Mais ce qu'il dit, c'est que la loi n'est pas du tout contre les promesses de Dieu. La loi n'est pas du tout là pour changer cette alliance de la grâce. Il dit encore une fois, hein, si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Encore une fois, il parle de condamnation de la loi, il parle d'impossibilité à la loi de sauver l'homme, et il va parler vraiment de la foi en Jésus-Christ, verset 22. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, comme on l'avait vu, hein, dans Deutéronome. On est condamné par la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ceux qui avaient été promis soient accordés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc si on reprend, on a vu l'alliance avec Abraham par la foi, qui avait comme bénédiction un pays, une nation, une progéniture, une postérité et des bénédictions sur la terre. On a vu ensuite la loi, l'alliance avec Moïse, qui était là pour révéler notre être tel que nous étions. Les personnes qui étaient là avant, au temps de Moïse, n'étaient pas différentes des personnes qui étaient au moment de Moïse. Mais Dieu a voulu, à travers ça, sceller, entre guillemets, notre sort. Dans le sens où si vous décidez sciemment de vous rebeller contre ma loi, de vous rebeller contre mes ordonnances et contre ma personne, entre guillemets, vous n'aurez vraiment plus d'excuses. Troisièmement, on va voir maintenant, ok, nous en tant que chrétiens, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on va jongler, entre guillemets, avec ces lois, avec ces alliances? Quelle est la place de la loi dans ma vie en tant que chrétien? Et comment est-ce que je peux simplement obtenir la foi et de cette foi-là avoir cette obéissance de Dieu et cette obéissance à la loi. Donc, comme on l'a vu, verset 22 nous dit nous avons été condamnés par la loi jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Donc ça c'est un parallèle avec ce qu'on avait vu avant, Deutéronome 27, 26. Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Donc la loi nous enferme, la loi nous convainc et la loi nous culpabilise. Et ensuite au verset 24, il nous dit donc, ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Donc dans une autre version, en fait, on a ainsi la loi a été le tuteur également chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Donc il y a vraiment cette notion déjà de que la loi, c'était un guide, un tuteur en fait pour nous. Dans les temps anciens, en fait, la notion de tuteur, c'était quelqu'un qui était payé, enfin c'était un peu dans les familles qui étaient assez riches, et on payait un tuteur pour un fils en fait, enfin pour prendre en charge l'éducation d'un fils. Donc en gros, j'ai un fils, je suis assez riche, et je vais payer un tuteur qui sera là pour lui. Ce tuteur va être chargé de l'enseigner, ce tuteur va être chargé de lui apprendre la loi, de lui apprendre la culture, de lui apprendre les connaissances, et ce tuteur va lui permettre en fait de prendre des décisions. Donc ce qu'il dit ici, la loi a été votre guide, la loi a été votre tuteur, chargé de nous conduire à Christ. Donc en fait, cette loi-là, elle était là vraiment pour nous permettre de prendre les bonnes décisions, pour nous permettre de savoir et de connaître Jésus-Christ à travers la promesse, de pouvoir comprendre la loi telle qu'elle. La loi était vraiment là pour que nous ayons cette connaissance de Jésus-Christ à travers les natures à travers la nature de la loi, en fait, à travers la nature de ce que Dieu a édicté à travers cette loi-là. La loi était vraiment là pour nous permettre en tant que chrétiens de prendre des bonnes décisions, de savoir comment agir en tant que chrétien. Mais il dit ici, à la fin, donc ainsi la loi était le guide, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. notre justice et notre salut ne vient pas de la loi ici, mais elle vient vraiment, nous a été déclaré juste sur la base de la foi. La loi était là pour nous permettre de naviguer au moment de cette période où Jésus-Christ avait été révélé par la foi, mais qui n'était pas encore là. Elle nous permettait de prendre des décisions, mais une fois que Jésus-Christ est là, ce n'est plus la loi qui est notre tuteur, ce n'est plus la loi qui est notre guide, mais c'est la foi. Et je pense que ce qu'il faut... Voilà, verset 25, « Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. » Ce qu'il ne faudrait surtout pas se dire, ce serait « Ok, il y a eu la loi, et maintenant, entre guillemets, il y a Jésus-Christ, il y a la foi, et donc je ne suis plus sous la loi. » Enfin, j'ai plus besoin d'obéir à ce que me dit Dieu. J'ai plus besoin de faire des sacrifices. J'ai plus besoin j'ai toutes les lois en fait, que ce soit les lois cérémonielles, les lois juridiques, les lois morales. J'ai plus besoin parce que Jésus-Christ me dit qu'il est là et qu'il va me guider. C'est plus la loi qui m'en guide. Je pense que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Matthieu 7, 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus-Christ n'est pas venu là pour dire toutes les lois qui vous ont été données, c'est fini. Ça serait trop facile. Et nous, des fois, en tant que chrétiens, on se dit, ah, mais du coup, je vis sous la grâce de Dieu, et tout ce qui est écrit dans la Bible, l'Ancien Testament, ça sert à rien pour moi. Je suis sous Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit Paul, il dit oui, la loi était le guide chargé de nous conduire. Depuis, la foi est venue, je ne suis plus sous le guide de la loi. J'ai plus besoin de la loi. J'ai plus besoin de ce standard de Dieu, de cette moralité de Dieu-là pour vivre ma vie. J'en ai plus besoin parce que je suis sous Christ. Christ va me montrer déjà comment ce que je dois faire. Christ va me montrer comment je dois être un bon chrétien. C'est pas ça que Jésus dit. C'est pas du tout ça. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et le prophète, je suis venu pour l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire l'accomplir ? Jésus-Christ, comme on l'a vu là, d'après la promesse qui a été faite à Abraham, il est venu pour nous délivrer de la captivité du péché. Jésus-Christ est venu pour nous sortir en fait de nos situations où nous étions sous le péché, parce que en ayant la foi en lui, nous avons été sauvés, tout comme Abraham en ayant la foi en lui, la foi dans son sacrifice, nous avons été tirés de notre situation de pécheur. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est encore, pour moi, c'est encore plus impressionnant en fait de vivre par la grâce de Jésus-Christ, dans le sens où au moment où on vivait sous la loi, il y avait la loi, donc je vais obéir à ces lois-là. Déjà, il y en a énormément, il y en avait plus de 600 à l'époque, 600 lois qui régissaient la vie des Israélites. Mais maintenant, je vis en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de la promesse et de la descendance d'Abraham. Et le standard que j'ai, c'est le standard de Dieu. Ce n'est plus le standard des lois ou quoi, c'est le standard de Dieu. Et Dieu n'en attend pas moins de moi. Je pense qu'en tant que chrétien, c'est important qu'on se rende compte que même si on ne doit plus faire des sacrifices, même si on ne doit plus obéir au sabbat tel qu'il a été décrit dans l'Ancien Testament, toutes ces règles-là, qui sont des règles cérémoniales et des règles juridiques, toutes celles-là, on peut les oublier, bien sûr. Mais le cœur même de la loi, c'est la justice, la bonté, la perfection de Dieu. Et ces choses-là restent intemporelles, que ce soit pour l'alliance d'Abraham, que ce soit pour l'alliance de Moïse, que ce soit pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ces lois-là restent les mêmes. Nous sommes sous le même standard de Dieu. Et c'est pas parce que la loi, entre guillemets, a été accomplie par Jésus-Christ, qu'on se dit je vais pouvoir faire ce que je veux en fait, entre guillemets. C'est marrant parce que souvent en tant que chrétien, et moi quand j'ai évangélisé auprès des musulmans, on se disait oui, bah vous les chrétiens c'est facile, vous dites oui je crois en Dieu, vous faites une prière et vous êtes sauvés. Et je peux vous assurer que bien souvent quand je parlais avec des chrétiens, enfin en semaine d'évangélisation, du coup c'est ce qui revenait en fait. Quand je posais, mais est-ce que tu es chrétien? comment Dieu a changé ta vie, quel est entre guillemets ton comportement aujourd'hui. Et je voyais très clairement que Dieu n'avait pas changé fondamentalement le cœur de cette personne-là. Même s'ils obéissaient des fois à des lois ou quoi, la loi ne peut pas faire le cœur, ne peut pas changer un cœur mauvais en cœur bon. Seul Jésus-Christ peut le faire. Et les gens se disent, oui, du coup, c'est facile pour vous, les chrétiens, vous avez juste besoin de croire, vous êtes sauvés. Moi, j'étais là et je disais, mais pas du tout. Nous, en tant que chrétiens, on a une responsabilité encore plus grande. Parce qu'on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur, on sait que Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur, dans notre vie. C'est lui qui va prendre contrôle de tout notre être. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est de nous humilier, entre guillemets, et de dire, Seigneur, viens m'apprendre ta loi, viens me révéler toi tel que tu es, et me montrer ce que je dois faire. Jésus-Christ accomplit la loi pour nous, pour que nous soyons plus sous la condamnation de la loi. Mais Jésus-Christ nous appelle aussi, ensuite, à accomplir cette loi-là. Parce qu'il est dans notre cœur, parce qu'il est avec nous, parce que par son Saint-Esprit il va nous aider, Jésus-Christ nous appelle aussi à l'accomplir avec lui. Ensuite, donc du verset 26 ensuite au verset 28, donc il nous parle de l'héritage, il nous parle de la descendance en Christ. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Tous ces statuts humains sont passés. Il n'y a que deux statuts qui comptent. Est-ce que vous êtes fils? Est-ce que vous appartenez à la descendance de Christ? Est-ce que vous appartenez à la descendance du monde? C'est les seules deux questions qui nous sont posées ici. Si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Ce qui est beau dans l'héritage que Dieu nous donne, et ce qui est beau dans tout héritage en fait, c'est que nous, en tant qu'héritiers, on mérite rien. Quand quelqu'un me dit, Michael, si mon père me dit un jour, Michael, tu vas recevoir 10 000 euros, je sais que j'aurais rien mérité. Parce que déjà, je sais quel est mon comportement, je sais que je suis pas un fils parfait. Quand même j'étais parfait, en aucun cas, je pourrais influencer mon père sur la décision qu'il va prendre. Il décide de lui-même de me déclarer héritier. De la même manière, Jésus-Christ a décidé de lui-même, par sa mort, par son sacrifice, à nous déclarer héritiers, conformément à la promesse. La promesse qui a été faite à Abraham de salut, enfin de nation, de postérité, de bénédiction, et surtout de salut, cette promesse-là, qui a été, entre guillemets, excitée par la loi de Moïse pour nous rendre compte à quel point on en avait besoin, qui a été réalisée à travers Jésus-Christ, nous permet ensuite d'appartenir à la descendance d'Abraham, en fait. La descendance en Christ, mais la descendance d'Abraham. Ce qui montre à quel point, en fait, c'est la seule et unique alliance qui est transversale, en fait, transverse à toutes les alliances qui ont été passées, que ce soit avec Abraham, avec Moïse ou avec Jésus-Christ. C'est la même et seule alliance à travers notre adoption en Jésus-Christ, à travers notre héritage qu'on peut avoir en tant que fils de Dieu. C'est en fait la même histoire que Dieu nous donne, la même histoire que Dieu, enfin, durant ces quatre, ouais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, durant ces 4000 ans en fait, c'est la même histoire qui se déroule. Au jour d'aujourd'hui, et moi en tant que chrétien, Quand on regarde en fait les trois grandes phases que je viens de vous dire, donc la phase post, enfin la phase de l'alliance avec Abraham donc, qui découle de la promesse, la phase Moïse, l'obéissance à la loi, et la phase Jésus-Christ, entre guillemets, je suis enfin déclaré fils de Dieu. Ces choses-là me font vraiment réfléchir, et j'espère vous font vraiment réfléchir aussi, parce que la loi qui a été donnée à travers l'alliance de Moïse et qui sous-tend vraiment et qui est caractéristique de la nature de Dieu, je pense qu'en tant que chrétien, c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller. On se dit souvent, ok, moi je suis chrétien et j'ai plus besoin, enfin, je suis justifié, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai fait une prière et j'ai plus besoin, enfin, et je suis quelqu'un de bien, et je suis quelqu'un de bon. Je pense véritablement, et même des fois, on se regarde pas souvent face à la loi en fait de Dieu. On n'a pas cette habitude-là. Une fois qu'on se dit sauvé, on va pas se dire ok, je vais regarder à la loi de Dieu. Est-ce que j'ai cette habitude-là? Et je pense que de la même manière que la loi a été là pour nous rendre compte de notre péché, la loi aussi pour les non-chrétiens, la loi aussi a cette même fonction-là pour nous en tant que chrétiens. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que je connais la loi de Dieu? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que je connais la volonté morale, la perfection et les standards de Dieu? Et où est-ce que j'en suis en tant que chrétien au jour d'aujourd'hui par rapport à cette perfection? Est-ce que j'ai cette habitude-là de me poser et de me dire, ok Seigneur, tu me connais mieux que quiconque, tu sais qui je suis, tu connais mon cœur, non pas seulement mes pensées, mais non pas seulement mes actions, mais même mon cœur, tu vois comment je suis et j'ai envie de me mettre au regard de ta loi et Seigneur, dis-moi. Comment je peux changer, Seigneur? Dis-moi ce qui a changé. C'est vraiment là, en fait, le but de la loi. Le but de la loi était pour les non-chrétiens qui se tournent vers Dieu, mais le but de la loi aussi en tant que nous, chrétiens, ou même non-chrétiens dans cette salle, elle est aussi là pour ça, pour nous remettre devant les standards de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons été nés de nouveau, par la grâce de Jésus-Christ, que la course est terminée. J'ai plus besoin de faire ce travail de me regarder devant le miroir. Je pense que, et moi, très sincèrement, je sais que je m'examine très peu par orgueil, peut-être. Je m'examine très peu parce que peut-être qu'aussi c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. C'est pas forcément quelque chose d'habituel à faire. Mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à la loi, par rapport à la moralité, par rapport à l'exemple de Dieu? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie qu'on garde à l'esprit, c'est que la loi est toujours vivante. Jésus-Christ n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie pour que nous puissions l'accomplir aussi dans notre cœur. Ensuite, je pense que c'est un peu un corollaire, on va dire, et une conséquence aussi de cette application, c'est moi, en tant que chrétien, est-ce que je me dis des fois que je suis comme un Galate? Est-ce que je m'appelle Galate Mike? Je m'explique. Est-ce que je crois des fois que parce que je sers à l'église, est-ce que je crois parfois que parce que je fais des choses, je vais mériter des choses, je vais mériter des bénédictions de la part de Dieu, je vais mériter le regard de Dieu, l'approbation de Dieu? Et pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Pourquoi est-ce que je sers à l'église? Pourquoi est-ce que je suis impliqué dans les ministères? Et moi, je sais qu'à un moment donné, c'était une question qui me parlait beaucoup, parce que je sais que il y a un ou deux ans, quand j'étais parti à Londres, je sais que j'étais peut-être en overdose de service à un moment donné. Et le fait de partir et de prendre du recul, en fait, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, j'étais un Galate Mike, entre guillemets. Dans le sens où je me dis, ok Seigneur, tu m'as sauvé, mais maintenant je vais faire des œuvres, maintenant je vais compter sur moi-même. Je vais même plus compter sur ta grâce, je vais même plus pouvoir compter sur ton esprit, je vais même plus pouvoir compter sur ta parole pour faire les choses. Moi, je connais les choses mieux que toi, entre guillemets, des fois. Dieu, tu m'as donné cette grâce de détester ton enfant, maintenant je vais faire des choses pour toi. Mais en fait, je vais les faire sans toi. Et je pense que c'est vraiment un danger, en tout cas que moi j'ai ressenti, c'est que, comme les Galates, ne croyons pas que Dieu nous a sauvés et que puis après on fait les choses par nos propres forces. On fait les choses pour nous-mêmes, on fait les choses pour nous et par nous aussi. Et Dieu nous rappelle vraiment à l'ordre ici. Mais toutes ces choses-là, en fait, je pense qu'on a vraiment une grâce et un privilège de pouvoir se dire que Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est présent, De la même manière que dans Galates, au chapitre 3, verset 3, il a dit « Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Paul nous dit « Mais de toute façon, je vous donne l'esprit, je vous donne, à travers Jésus-Christ, vous avez les armes, à travers Jésus-Christ, vous avez toute la force, toute la puissance pour réaliser ces choses-là. » Et c'est vraiment un privilège et une grâce qu'on a en tant que chrétien de se dire « Seigneur, tu m'appelles à faire des grandes choses. Seigneur, tu m'appelles à être parfait. Seigneur, tu m'appelles à me mettre au regard de ta loi parfaite. Mais j'ai cette espérance que c'est toi qui vas changer les choses. J'ai cette espérance que c'est toi qui vas me transformer. J'ai cette espérance que c'est toi qui vas me permettre d'être plus en adéquation avec ta parole. » Romains 12:2, et je vous laisse avec ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, comme on a vu les quatre points au départ, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous, au jour d'aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que vous vous conformez à ce siècle, à travers toutes les valeurs du postmodernisme, à travers toutes les valeurs de relativisme moral, nos libertés, etc. Où est-ce que vous en êtes, vous, en tant que chrétien, à travers, au milieu de ce monde présent? Paul nous dit ici, encore une fois, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous êtes prêts aussi à laisser de côté toutes les valeurs de ce monde et à vous laisser transformer par la parole? Quand on parle de loi, en fait, on parle tout simplement de parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. C'est la parole de Dieu qui transforme notre esprit. C'est ce que nous donnons à manger, notre esprit, qui va déterminer ce que nous sommes. Si nous ne mangeons pas de Dieu, entre guillemets, comment voulons-nous être à l'image de Dieu? Comment voulons-nous être transformés? Transformer notre intelligence, transformer notre connaissance, transformer notre être entier, si ce n'est pas à travers Dieu et grâce à Dieu? Donc voilà, pour terminer, il y a vraiment ce plan parfait que Dieu avait tracé déjà de toute éternité à travers Abraham, à travers Moïse et à travers Jésus-Christ. La cœur et la substance étaient la même. Mais Dieu a voulu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, se révéler de manière différente. Mais toujours avec la substance de la foi et de l'obéissance. Et sa loi nous permet vraiment de mieux le connaître. Sa loi nous permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension de lui, et sa loi nous permet de nous transformer encore plus à son image. J'ai terminé par une prière. Père, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur, qui est tellement riche, Seigneur, et quand on s'y plonge, Seigneur, on se rend compte que tu es un Dieu parfait, Seigneur, que tu es un Dieu cohérent, Seigneur, que tu as rien fait par hasard, Seigneur. Et quelle grâce et quel soulagement, Seigneur, de savoir qu'on est entre tes mains, Seigneur. De savoir que de toute éternité, tu avais déjà un plan pour nous, Seigneur, les pécheurs. Et de savoir que tu as voulu venir sur cette terre, Seigneur, pour accomplir la loi et pour nous permettre d'accomplir la loi également chaque jour de notre vie, Seigneur. Je te demande vraiment de nous bénir, Seigneur, nous tous, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, Seigneur, pour que ta loi puisse nous exciter, entre guillemets, Seigneur, à notre situation, Seigneur, pour que nous puissions regarder à nous-mêmes, Seigneur, arrêter de regarder à notre orgueil, à notre personne, Seigneur, mais regarder à toi, regarder à ta perfection, Seigneur, pour que nous puissions comprendre qui nous sommes vraiment, Seigneur. Merci parce que ta grâce surabonde, Seigneur, et ta grâce nous rend libres, Seigneur, et ta grâce nous rend heureux et en paix, Seigneur, de ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Tout simplement, réaliser les œuvres bonnes que tu as prévues d'avance pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à avoir cette foi-là, chaque jour, que tu es un Dieu parfait, Seigneur, que tu es un Dieu de bonté, Seigneur, et que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et tu nous transformes chaque jour par ta parole, Seigneur. Je remercie le reste de ce culte entre tes mains, Seigneur. Gloire te soit rendue en ton Fils Jésus-Christ.